Voilà, donc la dernière fois, j'avais demandé à ceux qui étaient là, ceux qui le pouvaient, de lire à l'avance deux chapitres dans l'évangile de Matthieu, les chapitres 24 et 25. Alors, je ne sais pas si bon nombre d'entre vous l'ont fait, peut-être, oui. 25 et 26, c'est pas grave. L'important, c'est surtout le 25, hein, ceci dit. Surtout le 25, bon. Rassurez-vous, je résumerai un peu, ça me paraissait trop long à lire, c'est pour ça que je vous avais demandé de le préparer un peu avant ce dimanche. Parce qu'il m'a sauté aux yeux en lisant notamment le chapitre 25, que tout ça était lié et que donc ça serait dommage de le présenter de façon fragmentée. Voilà, donc j'ai intitulé mon message « Les trois paraboles de Matthieu 25 ». Et avant d'attaquer ces trois paraboles, on pourrait lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 22. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. En vous abusant vous-même. Je relis. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Un peu plus loin, au chapitre 2, au verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix et tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc des paroles très fortes. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et puis un dernier verset dans ce même chapitre, verset 26, donc Jacques 2, 26. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Vous savez que le grand réformateur Luther, Martin Luther, était tourmenté par son péché quand il était moine augustin et théologien, c'était un homme très cultivé. Il était vraiment tourmenté par l'idée de son péché, de la justice de Dieu et qu'il aurait à rendre compte un jour de son péché. Et un beau jour, il a eu cette illumination, très certainement par le Saint-Esprit, que ce terme « justice de Dieu » qu'il redoutait avec une terreur, il disait « le moindre de mes péchés, je suis attendu au tournant et Dieu va me juger ». Il a compris que cette justice, c'était la justice dont il était revêtu par Christ. Cette justice acquise par son sang au calvaire, non pas une justice qui juge, mais une justice qui protège, une justice gratuite, une justice qui lui était donnée. Ça a été la grande découverte de Luther. Et ça a été pour lui un bouleversement, et bien sûr il a fait partager à beaucoup de personnes cette découverte, et ça a été l'origine de ce grand mouvement de la réforme au XVIe siècle. Et puis, du coup, Luther, quand il lisait l'épître de Jacques, il disait « mais c'est pas possible, ce que dit là Jacques, ça va pas avec ce que je viens de découvrir ». À tel point qu'il se demandait si l'épître de Jacques était digne de figurer dans le canon sacré, dans les Écritures. Voilà, bon, je crois que là-dessus il se trompait, et heureusement, c'est même un de ses proches amis et collaborateurs, Mélenchon, lui avait bien réintroduit l'épître de Jacques dans le canon des Écritures. Elle est tout aussi utile pour nous, et on va voir. On va le voir. Alors, je pense que le mieux, la meilleure référence, c'est encore le Seigneur Jésus, pour savoir, dans ce débat. Hein. C'est encore le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je vous invite à considérer ces trois paraboles qu'on trouve dans Matthieu 25. Et ces trois paraboles font suite à une question que les disciples ont posée à Jésus au chapitre 24. Alors, on revient à Matthieu, au chapitre 24. « au premier verset, Matthieu 24, premier verset, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. » Il paraît que le temple de Jérusalem était une merveille de l'époque. Hein. Il fallait une quarantaine d'années pour le construire. C'est Hérode le Grand qui l'avait fait construire. C'était un édifice absolument splendide. Et donc, les disciples sont émerveillés. Ils font remarquer à Jésus, « Tu vois comme c'est beau. » Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela ? Amen, je vous le dis. » Amen veut dire en vérité. Hein. « Je vous le dis. » Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça a dû pas mal les étonner quand même. Hein. Verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Ce que tu viens de dire là. « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc une sorte de triple question qu'il pose à Jésus. Donc, le principal de leur question, c'est quand ? Mais Seigneur, si tu dis que ce temple va être détruit, là, etc., c'est quand ? Et la réponse de Jésus va être très claire. Dans ce même chapitre, c'est le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bon, ça c'est franchement une fin de non-recevoir, hein ? Le quand, ce n'est pas votre problème. Et c'est drôle d'ailleurs de voir que dans l'histoire de la chrétienté, il y a plein de gens qui ont essayé de déterminer le quand. Ils sont tous plantés, bien sûr. C'était logique. S'ils avaient lu ce verset, ils auraient peut-être évité de dépenser de l'énergie pour rien. En ce qui concerne les signes, Jésus a quand même donné des signes. Et ces signes, c'est tout le chapitre 24. Donc des signes pour nous avertir, tout de même. On n'a pas le quand, mais on a des signes. Ce n'est pas le sujet du tout de ma méditation aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. Et en revanche, tout le chapitre 25 est consacré par Jésus au comment. Jésus ne va pas répondre quand, il va répondre comment vous devez m'attendre. Et il répond sous forme de trois paraboles, qui ont été groupés par l'auteur inspiré, Matthieu, donc dans ce chapitre 25. La première de ces paraboles est appelée communément la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. Je pense que vous l'avez tous un peu en tête. Juste avant d'en parler, je rappelle quelques règles simples d'interprétation des Écritures et notamment des paraboles. Il faut être très prudent quand on essaye de comprendre ou d'interpréter tous les détails d'une parabole. Ça conduit en général immanquablement à se tromper, à se planter ou à des choses insolubles. En revanche, une parabole pointe toujours vers une idée principale, qui est l'idée que veut faire passer celui qui raconte la parabole. Donc, bien avoir en tête qu'il y a toujours une idée principale et c'est elle qu'il faut retenir. Alors, la parabole des 10 vierges, vous rappelez, vous connaissez l'histoire. Jésus raconte cette parabole. Il fait allusion à une coutume qui existait au Proche-Orient, à cette époque-là. Quand il y avait un mariage, les jeunes filles de la localité allaient à la rencontre du futur marié, de l'époux. Elles allaient le chercher chez lui et elles l'accompagnaient jusqu'à la salle où devaient avoir lieu les noces. Ça se passait généralement de nuit, parce que le soleil se couche tôt dans ces pays-là, donc après 6 heures du soir, il fait nuit. Et elles étaient censées accompagner l'époux, mais l'accompagner en éclairant son chemin. Donc, elles prenaient avec elles des lampes et de l'huile. Et dans cette parabole, Jésus raconte qu'il y avait 10 jeunes filles comme ça, qui avaient préparé leurs lampes, et qui attendait que l'époux arrive, qu'il sorte de sa maison pour pouvoir l'accompagner jusqu'à la salle de noces. Et puis l'époux tardait. Bon. Et elles se sont toutes endormies. Et Jésus précise que 5 d'entre elles, 5 sur les 10, étaient sages, et 5 d'entre elles folles ou insensées. Bon, c'est le terme même qui est utilisé. Les 5 sages avaient pris la précaution d'avoir une réserve d'huile. Non seulement il y avait l'huile de leur lampe, mais elles avaient pris une réserve en plus, un petit réservoir probablement, avec de l'huile pour le cas où ça tarderait justement. Et les cinq qualifiés de folles n'avaient pas pris de réserve d'huile. Et comme l'époux, en l'occurrence dans l'histoire, n'est arrivé que vers minuit, donc ça faisait quand même de longues heures, ben, l'huile des réservoirs s'était épuisée, l'huile des lampes plutôt s'était épuisée, elle s'éteignait. Et celles qui n'avaient pas pris la précaution d'en prendre une réserve disent aux sages, mais donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Ah, seulement les sages répondent, mais il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt en acheter chez les marchands. Et puis, tandis qu'elles étaient parties en acheter, eh bien l'époux arrive, elle l'accompagne dans la salle de noces, et là, chose terrible, la porte est fermée. Une fois que tout le monde est entré, ceux qui étaient prêts sont entrés avec l'époux, les jeunes filles qui étaient prêtes sont entrées avec l'époux, et la salle des noces fut fermée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette parabole nous montre une chose, je pense, principale, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à l'attente du Seigneur. Alors, quand on essaye d'aller chercher la signification de chaque détail, notamment celle de l'huile, bon, on dit classiquement l'huile, c'est le Saint-Esprit, alors il faut avoir du Saint-Esprit pour attendre le Seigneur, mais bon, si on n'en a pas assez, ça ne permettra pas d'aller jusqu'au bout, alors il faut en acheter, on s'en sort plus, hein. Ça devient complètement idiot. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que les vierges sages ont été prévoyantes. Et c'est en vertu de cela qu'elles ont l'honneur d'éclairer le chemin de l'époux vers la salle de noces et qu'elles sont admises au banquet. Elles se sont préparées. Ça veut dire qu'elles ont pris au sérieux l'attente de l'époux et leur rôle de l'accueillir pour l'accompagner de leur lumière. Jésus, plutôt, dans ce même évangile, avait dit lors du sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde, un monde qui gît autrement dans les ténèbres. » Et notons bien donc que la fin de cette parabole, c'est les versets 10 à 12, « La porte de la salle des noces fut fermée. » Et le Seigneur dit aux vierges insensées qui arrivent trop tard, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » C'est une parole terrible qu'entendront un jour tous les réprouvés. Dans le même évangile, au chapitre 7, versets 21 à 23, on peut le lire, Matthieu 7. Verset 21, c'est Jésus qui parle, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. » On retrouve ce verbe très étonnant, « Je ne vous ai jamais connu. » Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Voilà pour cette première parabole. Deuxième parabole, c'est la parabole des talents. Vous savez que cette parabole a un équivalent dans l'évangile de Luc, qui est la parabole des mines, mais ça raconte à peu près la même histoire avec quelques variantes. Là aussi, je vous rappelle l'histoire de cette parabole. Un maître qui part pour un long voyage et qui confie une somme d'argent à chacun de, en l'occurrence, là il y a trois de ses serviteurs, et il est dit selon la capacité de chacun. Au premier, il confie 5 talents, au deuxième, 2 talents, et au troisième, 1 talent, mais chacun selon sa capacité, que le maître connaissait certainement très bien. Et puis, au bout d'un certain temps, il revient et il fait rendre compte à chacun de ses serviteurs de ce qu'il a fait de cet argent. Soit dit au passage, 1 talent, c'est une somme énorme, hein. C'était pas du tout, j'ai plus exactement en tête l'équivalence, mais je crois que c'est vraiment beaucoup d'argent. Et là donc, celui qui avait reçu 5 talents en a gagné 5 autres, il a doublé la mise. Celui qui avait reçu deux talents en a gagné deux autres, lui aussi a doublé la mise. Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent a un comportement très curieux. Il se permet des paroles insolentes envers le maître, en disant qu'il est dur, qu'il est, voire même pas français, pas vraiment honnête. C'est assez incroyable. Et il dit, ben voilà, ton talent, je l'ai caché dans la terre. Et ben voilà, il est là, je l'ai, je te prends ce que tu as, prends ce qui est à toi. Et là, la réaction du maître est très sévère. On peut la lire. C'est au verset 26. Son maître lui répondit, esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Ça, c'est les accusations dont le serviteur l'avait affublé. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. À mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, donc c'était là, celui qui avait caché le talent, là, chassez-le dans les ténèbres de dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une image très claire hein, de la damnation éternelle. On retrouve toujours ce type d'image pour évoquer la damnation éternelle. Alors que pour les serviteurs qui avaient été fidèles, il est dit chaque fois, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Une image claire du salut, et même en plus des récompenses. Alors, quelle est l'idée principale de cette parabole? Les serviteurs sérieux qui ont travaillé et fait fructifier l'argent qu'ils avaient reçu de leur maître sont qualifiés de bons serviteurs, dignes de confiance. Il leur est promis de grandes responsabilités. Dans le récit parallèle de Luc 19, il s'agit d'administrer même des villes, hein, bon, dans le royaume des cieux. Et ils sont invités à entrer dans la joie de leur maître. Le serviteur paresseux, en contraste, a des propos insolents envers le maître. Son unique talent est donné à celui qui a gagné le plus. Et lui-même est qualifié de serviteur inutile. J'insiste sur le mot inutile. Il est chassé dans les ténèbres dehors, c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents, image constante dans l'écriture de la réprobation éternelle. Qu'est-ce qui caractérisait les serviteurs sérieux? Eh bien, qu'ils ont bien travaillé. Ils ont produit du fruit, proportionnellement à leur capacité, à ce qu'ils ont reçu. Comment ne pas penser d'ailleurs au don du Saint-Esprit dont nous entretient Paul dans ces épîtres, donc nous sommes appelés à faire fructifier pour l'utilité commune. On retrouve donc ce terme clé d'utilité. Et c'est bien ce dont Jacques parle dans le passage qu'on a lu au début. Une foi théorique est une foi inutile si elle ne se manifeste pas par des œuvres. La troisième parabole, c'est la parabole qu'on appelle généralement des moutons et des chèvres ou des moutons et des boucs, enfin, suivant les termes utilisés. Je pense que vous l'avez aussi, j'espère, bien en tête. C'est une image du jugement dernier, où Jésus est là, et tous les peuples de la terre sont rassemblés devant lui, et il va opérer un tri, mettant les brebis ou les moutons à sa droite, et les chèvres ou les boucs à sa gauche. Et on se demande sur quels critères ce tri va être fait. Et vous connaissez, je pense, les critères que donne Jésus. Parce que ceux qui sont considérés à la droite du Seigneur se disent, mais bon, pourquoi tu nous mets là, enfin. Et Jésus leur dit, ben voilà. Je peux vous lire juste quelques passages rapidement. Au verset 34. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, mes seigneurs, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Est-avons-nous ou nus, est-avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis ensuite, il y a exactement la même chose symétrique vis-à-vis des chèvres. Et il leur fait le reproche que tous ces actes de compassion, de miséricorde, ils ne les ont pas faits à ces plus petits des frères de Jésus. Et la conséquence, on la trouve à la fin donc, de cette parabole. Au verset 45, alors il leur répondra, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, pour ceux qui n'ont pas fait ces actes de miséricorde, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc on voit que dans ces trois paraboles, la conséquence, à la fin, c'est toujours la destinée finale. Hein, le châtiment éternel, ou au contraire le salut, typifié par la salle des noces, la joie d'entrer dans la joie de son maître pour les serviteurs. Et la même chose, la vie éternelle. Alors, que conclure de cet enseignement de Jésus regroupé là dans ces trois paraboles? Je crois que le Seigneur a illustré par ces trois paraboles trois aspects fondamentaux de la foi mise en pratique. Le premier, c'est la préparation ou la prévoyance, le sérieux avec lequel on envisage sa vie chrétienne. Le deuxième, c'est le zèle dans le travail pour le maître, la parabole des talents ou des mines. Et le troisième, c'est l'exercice de la compassion et de la miséricorde envers ceux qui en ont besoin. Alors la prévoyance. Nous avons vu que l'un des problèmes des dix vierges, c'était que l'époux tardait et que l'huile est venue à manquer pour celles qui n'avaient pas prévu. Alors je crois, le Seigneur par là nous exhorte à être conséquents dans notre vie chrétienne. Est-ce que nous nous embarquerions pour un long voyage en voiture sans faire le plein? Je pense qu'il s'agit là de faire le plein de la parole de Dieu, par exemple, en être imprégné pour pouvoir tenir la distance, comme on dit. C'est elle qui nous fait connaître notre Seigneur, qui nous nourrit, qui nous renouvelle. N'est-il pas inconséquent de se contenter de quelques litres d'essence juste pour faire quelques kilomètres? La seconde parabole nous parle du zèle dans le travail. Le Seigneur nous a remis à chacun un capital à faire fructifier, et certainement pas un simple placement bancaire, comme c'est dit à la fin de la parabole. Je pense que les serviteurs qui ont reçu les 5 et les 2 talents ont certainement créé leur macro ou leur micro-entreprise. Ils ont tous deux doublé le capital. Croyez-vous qu'ils ont obtenu ce résultat en se tournant les pouces? Soyons donc conséquents avec les dons que le Seigneur nous a faits et faisons-les fructifier pour l'utilité commune, comme on l'a vu lors du week-end à Joud. Il nous faut être sérieux avec nos dons, ne pas les mettre en veilleuse, comme le serviteur inutile qui avait caché son talent dans la terre. Et le troisième aspect, donc la troisième parabole, celle des brebis et des boucs, c'est l'exercice de la compassion. Ça se passe quasiment de commentaires. N'y a-t-il aucune misère autour de nous? Aucun besoin? Pas de malades à encourager, pas de prisonniers à visiter, pas de gens dans la détresse financière. Et je pense que c'est ainsi, ces trois aspects, la préparation sérieuse, le travail pour l'utilité commune et l'exercice de la compassion, c'est ainsi que le Seigneur veut qu'on l'attende, que nous comportions durant son absence, et ceci jusqu'à son retour. Et c'est ainsi que nous ferons la démonstration que notre foi est une foi réelle, une foi utile, et aussi d'ailleurs, on l'a vu, une foi qui sauve, même si le salut est un don gratuit. Mais une foi théorique, ce n'est pas une foi qui sauve. Alors suivons le conseil de Jacques, méfions-nous de n'avoir qu'une foi théorique, intellectuelle, est en réalité inutile. Elle ne sert à personne, pas même à nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse.